Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir.
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui vous allez écouter un homme de l'ombre qui fait énormément bouger la restauration parisienne. Il s'agit de Fabien Lombardi.
Aujourd'hui encore, en fait, je n'ai pas envie d'imposer un truc où il faut manger pour boire, ou il faut boire pour manger, tu fais ce que tu veux en fait. Si tu veux venir boire un apéro, tu peux. Si tu veux manger, juste manger, dîner et repartir, tu peux. Si tu veux juste kiffer, venir boire un petit cocktail, écouter du son, tu peux aussi. Tu peux faire les deux, manger. Tout le monde, en fait, se renvoie la balle et tout le monde, au final, fait tout dans l'endroit, quoi. Donc, c'est assez cool.
Fabien, c'est le créateur de la tribu des Faggio et de Bambino, mon spot chouchou du moment. Barman de formation, il ne rêvait pas d'être une machine à ouvrir des restaurants. Et pourtant, il l'est devenu. Il œuvre aujourd'hui à la tête, discrètement et sûrement, de 6 établissements. Fabien est un des restaurateurs les plus sensibles et accomplis que je connaisse, sensible aux détails, à la création et capable d'imaginer des tout cohérents et tellement feeling. Avec Fabien, on a parlé de fougue, d'être soi-même, de Brooklyn et de radis. N'oubliez pas, grâce au partenariat avec À la Table, vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde sur le site elle.fr. Chaque nouvel épisode avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Fabien.
Salut Julie.
On enregistre en plein confinement et sur 6 établissements, t'avais réussi à en garder un ouvert et là tu viens de me dire que tu venais de réouvrir Faggio Pizzeria.
Exactement.
Ça se passe comment? Tu te voyais pas fermé déjà parce que t'as tout de suite ouvert la Salumeria. Enfin, tu t'es jamais vraiment résolu à te dire je ferme tout.
À la base des bases, tu sais pas trop en fait parce que c'est un peu un truc qui est jamais arrivé. Tu sais pas trop comment réagir face à ça. Tu sens que c'est quand même assez important. Donc, on a été très disciplinés. On a décidé de tout fermer tout de suite sans se poser de questions, en fait. Et puis après quelques temps passés à la maison, tu te rends compte que l'épicerie, en fait, comme tu vends des pâtes, de la farine, du fromage, des sauces tomates, des produits frais, etc. Tu dis qu'en fait, tu as le droit d'être ouvert, évidemment, en respectant tous les gestes barrières, etc. Donc, petit à petit, on a réfléchi et du coup, j'ai décidé de rouvrir la Salumeria, rue de Rochechouart.
Tout seul?
Tout seul, ouais, parce que je voulais pas imposer au staff, parce que tout le monde avait un peu peur, même moi le premier, hein, je sais pas trop où tu vas, quoi. Donc, j'ai hésité. Au début, j'ai ouvert une première journée. Après, j'étais parano. Les moindres faits et gestes, t'es là à tout calculer, à te laver les mains 45 fois. Enfin, c'est un peu flippant au début. Puis après, ça se tasse. Et puis après, petit à petit, naturellement, il y a les gars qui te rappellent, qui te disent « Refais-moi bosser, s'il te plaît », etc. Bon, j'ai mis un stop à tout le monde au début. Et donc, j'ai fait ça petit à petit, quoi. Donc là, aujourd'hui, en effet, on a rouvert... Enfin, hier, du coup, on a rouvert la pizzeria rue de Rochechouart parce qu'elle est collée à l'épicerie. Et en moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'habitués, des clients du quartier qui adorent l'endroit et qui nous ont demandé à plusieurs reprises... si on pouvait rouvrir, etc. Donc, on a fini par craquer et on a mis en place quelque chose d'assez carré au niveau des normes. Enfin, personne ne rentre. Il y a une table qui empêche d'entrer, etc. Il y a du gel, il y a des masques pour tout le monde, pour tous ceux qui travaillent, en tout cas. Effectif très, très, très réduit. Mais écoute, on a bossé hier. Les gens étaient contents, nous aussi, de revoir des visages, de revoir un peu de vie, quoi.
Et financièrement, c'est par exemple la Salumeria. T'as un peu plus de recul, ça va faire un mois. Est-ce que ça sauve les meubles ou est-ce que c'est aussi t'avais pas envie de t'ennuyer et de rester chez toi à rien faire?
Non, clairement pas, parce que aujourd'hui on est à 6 établissements et on a quelques. On y reviendra certainement plus tard, mais on a quelques employés. Et c'est clairement pas la recette d'une épicerie ouverte pendant 4 heures, quoi, de 15h à 19h, qui remplit les caisses. C'est plutôt pour à la fois faire plaisir aux voisins, faire plaisir au quartier, parce que c'est très familial, il y a pas mal de jeunes couples, etc. Et puis, il y a plein de gens cool. Donc, c'était plutôt pour un peu voilà, qu'ils aient autre chose que le Carrefour City ou d'autres grandes surfaces qu'on évitera de citer. pour un peu varier les plaisirs et avoir voilà de continuer aussi à faire travailler un peu nos producteurs qui sont un peu dans la même galère que nous. Enfin, tout le monde est dans le même sac.
Et c'est pas trop difficile financièrement parce que t'as monté quand même deux établissements il y a juste à peine quelques mois. Quand t'es dans cette période, je veux dire, où tu montes des établissements, t'as beaucoup d'investissements et t'as pas encore eu le temps de les rentabiliser. Là, ça par-dessus, est-ce que ça te met en danger? Est-ce que ça va aller?
Ça va aller. Ouais, oui, c'est évidemment, c'était la trésorerie est très serrée parce que tu viens d'ouvrir, t'as toujours des travaux, les travaux, tu dépasses toujours les budgets, etc. Puis surtout, on n'avait pas prévu de fermer aussitôt et surtout qu'on, faut pas oublier qu'on sort d'une période d'un hiver un peu long avec entre les grèves, les gilets jaunes, les fins d'année, etc., etc. Plus là le Covid, donc c'est assez financièrement parlant, c'est assez compliqué. J'ai la chance par contre d'avoir un banquier qui me suit parce que ça fait 5 ans avec Fadjo là qui me suit et que les bilans sont plutôt très positifs. Donc là j'ai enfin eu droit à un prêt. Donc ça va beaucoup mieux et tu te voilà là je paye tout le monde, même les factures de mi-mars là, j'essaie de régler je règle tout en fait, tout au maximum pour aider du coup ceux qui m'accompagnent jusque là, c'est-à-dire qui me fournissent les produits, qui ont des petites structures, etc. Donc c'était dur financièrement parlant quand t'avais pas trop d'idées ou tu vois, quand t'avais pas trop d'idées, quoi, de savoir si on allait t'aider ou pas et de combien, etc. Et au final, c'est un peu long, mais il y a quand même de bonnes choses qui sont faites pour nous aider. Donc, écoute, franchement, ça va. C'est juste, ça fait mal au cœur d'avoir, pour revenir sur les ouvertures de Bambino, c'était un succès, ce le sera encore, mais c'était quand même assez fou, quoi. C'était plein tout le temps, des gens qui reviennent. C'était un carton plein, 7/7 tous les jours. Enfin, c'est assez fou, quoi. Cette ouverture était assez folle. Donc, j'ai pas peur pour la suite parce que je sais que les gens attendent que ça, de revenir. Nous aussi, on sera plus chaud que jamais. Ça va repartir. C'est juste dommage de couper l'élan d'un si beau démarrage, quoi.
Ça t'a permis cette pause forcée, ce confinement t'a permis de reprendre de l'énergie jusqu'à la fin de l'année.
Ouais, je t'avoue qu'au final, ça c'est assez bien tombé en fait parce que ça m'a calmé. C'était un peu un impératif pour me calmer parce que j'étais heureusement qu'il y a ma compagne aussi qui est là pour ça parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite penser à autre chose et avoir des tas d'idées, etc. Et c'est vrai que j'étais bien parti pour repartir sur un truc, mais heureusement que il y a ça qui est arrivé pour me calmer un peu parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué après au quotidien la gestion parce que je suis tout seul et c'est quand même pas mal de taf, quoi.
Et entre l'entrée des artistes rue de Crussol qui était ton tout premier établissement avec Edouard, avec ton associé Edouard, et Bambino qui se trouve un peu par hasard à deux pas, il y a vraiment des similitudes. Est-ce qu'on peut dire que Bambino c'est la version aboutie du premier?
Alors je dirais pas ça parce que je dirais qu'en fait, parce que l'entrée des artistes, c'est un peu quelque chose qui a dans une partie de notre cœur à Edouard et moi, en fait, si tu veux, c'est que c'est un endroit qui est unique et qui le restera. Donc il y a pas de points, il y a pas vraiment d'équivalent. Il y a pas, c'est un truc qui a été fait. On n'avait pas de budget, on n'avait rien. Plutôt, si je devais dire qu'il y a une version de l'entrée des artistes 2.0, ça serait plus celle de Pigalle, parce que je trouve que ça reste quand même un endroit qui est, je trouve, exceptionnel, qui est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux spots. Du Paris un peu underground, enfin un truc un peu, tu sais, pas trop chic, mais à la fois cool. Je trouve que ça fait partie des plus beaux spots à Paris. Donc Bambino, je dirais, c'est plus une évolution, quoi. C'est plus il y a plus de maturité, d'expérience aussi. Ça fait presque 10 ans quand même qu'on a ouvert à l'entrée des artistes, le premier à rue Crussol. Donc il y a plus de moyens aussi aujourd'hui. C'est autre chose. Il y a un ADN, si tu veux. Le point commun, c'est qu'il y a un ADN. Cet ADN, c'est l'identité qu'on a toujours eue, que moi j'aurai toujours, qu'il aura toujours. C'est-à-dire que c'est toujours ce monde de la bouffe, de la boisson, du son, etc. Et c'est un truc qu'on a toujours eu et qu'on aura toujours, peu importe ce qu'on ouvre. Tu vois, si tu prends même un Fadjo, il y a toujours un univers musical. C'est moins mis en avant, mais il y a toujours des playlists qui sont faites, etc. Toujours dans le thème de ce que j'aime. Ouais, pour 2.0, oui, mais 2.0, c'est encore géré par Edouard aujourd'hui, c'est à Pigalle. Bambino, c'est la version plus mature, plus Fabien tout seul, plus, comme je disais, avec plus de moyens, d'expérience, plus de maturité aussi, ça c'est sûr.
Sur les mêmes bases, musique.
Ouais, ces bases-là, on les a pas inventées, ouais. C'est toujours des choses qui nous tiennent à cœur.
Vous les avez pas inventées, mais vous les avez mixées ensemble, et ce qui était encore assez rare, et d'avoir de la cuisine avec des cocktails, c'est assez novateur.
Exactement. Oui, c'était, encore une fois, on a rien inventé, je pense, mais juste en fait, on a pris un endroit, on savait ce qu'on kiffait, on savait plus ou moins ce qu'on voulait faire, juste on n'avait pas trop de moyens et on a tout mis dans un bistrot qu'on a récupéré. Voilà, on n'avait pas trop de budget, on a tout mis là-dedans et comme c'est des trucs qui nous tiennent à cœur et c'était fait avec amour, etc. Bah les gens ont kiffé quoi. La presse en premier, puis il y avait beaucoup de comme c'était dans le 11e, beaucoup de chefs du 11e et des arrondissements alentour. Donc c'était plutôt un truc. C'était un peu comme si tu venais à la maison, quoi. Tu bois du cocktail, t'avais des vins nature, t'avais petites assiettes, du son, et les gens adoraient, quoi. Donc les gens kiffaient parce que ils étaient assez libres dans cet endroit. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais voulu, moi aujourd'hui encore, hein, que je veux pas. En fait, je veux pas imposer. Je n'ai pas envie d'imposer un truc où il faut manger pour boire ou il faut boire pour manger. Tu fais ce que tu veux. En fait, si tu veux venir boire un apéro, tu peux. Si tu veux manger, juste dîner, repartir, tu peux. Si tu veux juste kiffer, venir boire. Un petit cocktail, écouter du son, tu peux aussi. Tu peux faire les deux, manger. Et tout le monde, en fait, se renvoie la balle et tout le monde, au final, fait tout dans l'endroit, quoi. Donc, c'est assez cool.
Et Bambino, ça reste comme ça, en fait.
C'est cette liberté. T'es venu, hein, t'as bien vu le truc. Tu viens, tu bois, tu manges, personne t'impose rien. Il n'y a pas de réservation. Tu peux juste venir écouter un disque, manger ou boire les deux en même temps, venir faire la fête après ou juste prendre un apéro. Avec des potes, en groupe, c'est assez libre, quoi.
C'est un mix de plein d'influences, plein de choses qui t'avaient plu. Tu m'avais dit les bars à jazz japonais, la cuisine à la braise de Romano à Tel Aviv, les cocktails vieillis en fût que t'avais commencé aussi à faire à l'entrée des artistes.
Ouais, alors là, on fait plus de cocktails vieillis en fût, on fait des cocktails en pression.
À la tireuse.
Ouais, donc, du coup, c'est un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu, il y a toujours cet ADN, si tu veux, qui est food, bouffe, musique. Et boisson, évidemment, ça va avec pour nous, enfin pour moi. Et du coup, avec, comme je te disais, avec les voyages, l'expérience, la maturité, le fait de pas mal, j'ai pas mal bougé en fait à l'étranger, surtout au Japon. Je suis allé très récemment, enfin il y a 2-3 ans à Tel Aviv avec ma compagne qui était déjà allée, qui m'avait dit viens on y va, tu vas voir, c'est charmé, tu vas kiffer. Et franchement, j'ai pris une grosse claque en revenant de là-bas. Et c'est là-bas que ça, c'est chez Romano en fait, le même chef des Mise Non, etc. là à Paris.
Il y a le Chani.
Exactement. Qui a le Port Saïd aussi à Tel Aviv. Et ce Romano là, c'est un endroit. Je suis rentré, j'ai fait OK. Cet endroit, il est fou parce que il y avait tout un son de système à l'ancienne. Quand on y était, il y avait un DJ. Apparemment, il y a des DJ tous les soirs. Et l'ambiance monte petit à petit. C'est la bouffe un peu méditerranéenne. L'ambiance monte, on te met des shots. Les serveuses sont super cool. Tout le monde est très, très cool. On s'assoit à table, ça boit un shot avec toi. L'ambiance monte petit à petit. Après, ça danse. C'est une cuisine ouverte. C'est assez libre. C'est très simple dans les assiettes et dans les boissons. Il n'y a pas de trucs trop compliqués. Mais c'est assez juste, les goûts sont là, l'ambiance est là, il fait chaleureux, et donc ça, j'ai vraiment kiffé. Et j'aime beaucoup le Japon aussi, dans ces bars justement, où c'est un peu trop timide pour moi, c'est un peu trop, on parle pas trop, mais ça a son charme, et j'aime bien aller dans tous ces jazz, dans tous ces kissabars. C'est les bars à jazz, tu sais, les bars à musique, avec tous les vinyles, et la journée, tu bois tes cafés, et le soir, tu bois tes cocktails. Et c'était un peu un mix de ces deux endroits-là, c'est un peu, sur le papier, ça fait un peu bizarre, mais c'est un peu, c'est-à-dire une fusion, Japon, Tel Aviv, que en fait moi j'ai fait cet endroit encore un peu pour moi et c'était un endroit où j'avais je trouve ça, il y a des endroits à Paris où tu écoutes du son, il y a des endroits où tu manges, il y a des endroits, mais un lieu comme ça je pense que ça existe pas et du coup je voulais créer un endroit où les gens aient envie de revenir tout le temps parce que justement c'est assez libre comme je te disais et parce que c'est cool quoi et moi c'est un endroit où j'ai envie d'aller tout le temps et donc
moi aussi
enfin clairement si c'était pas si c'était en bas de chez moi, j'irais clairement tous les soirs. Donc, je me suis dit que ça pourrait plaire aux gens si j'arrivais à penser ça. Et au final, c'est un pari plutôt gagnant. Et moi, j'y suis tout le temps aussi, du coup, je kiffe. Donc, c'est assez plaisant. Et, ouais, on a une cuisine, tout est fait à la braise. Une carte très, il y a une quinzaine de petites assiettes très méditerranéennes. Donc, c'est assez large, mais à la fois, c'est cool. C'est chaleureux, c'est une cuisine ouverte. Tout le monde participe, la bonne humeur. Il y a des disques qui tournent, il y a de la musique, il y a une bonne ambiance. Le staff est méga cool. Et les gens font la teuf, quoi. C'est vraiment cool.
Tu disais que tu l'avais fait pour toi et tu t'es fait complètement plaisir au niveau du concept, mais aussi au niveau de la réalisation. Parce que tu parlais du système de son. Tu as fait faire des enceintes sur mesure. Tu as mis toute ta collection de vinyle sur la déco aussi. Tu t'es super impliqué pour créer un lieu vraiment esthétique au-delà du concept.
Du coup, Bambino, en fait, c'est l'enfant, quoi. C'est le bambin, quoi, le bébé.
C'était ton surnom, hein?
C'était mon surnom quand j'étais dans le sud, quand j'étais gamin. Je m'appelais Bambino. Comme aujourd'hui, on m'appelle Fabio. Je sais pas, c'est peut-être mon nom, Lombardi, qui fait que les gens pensent que je suis italien, mais que je suis pas italien du tout. Et donc, Bambino, et je trouvais que ça sonnait bien et ça allait bien dans la lignée de l'endroit, de l'image que je voulais donner au lieu, le dernier bébé que, voilà, comme tu dis, j'ai tout mis. Je travaille avec un gars super que, justement, Edouard m'a présenté à l'époque, qui s'appelle William, qui a une boîte qui s'appelle Palladium Audio, qui fait que du sur-mesure. C'est un génie de la conception. Il travaille avec un ébéniste qui est juste à côté. Donc là, il a reproduit un son système un peu inspiré des Altex, des enceintes classiques, assez connues dans les années 80, 70-80. Et tout en bois, bois massif. Puis derrière, il y a tout un système qui est cool. Il y en a mis le paquet, parce que c'était bien beau de mettre des grosses enceintes, mais si c'était pourrir la vie de tout l'immeuble, c'était pas la peine. Donc il fallait faire une super insonorisation, un sas d'entrée, enfin toutes les contraintes un peu c'est la boîte dans la boîte, quoi. Donc c'était la difficulté, c'est qu'il fallait introduire une cuisine là-dedans, avec comme il y a du four à bois et du barbecue, donc il faut deux conduits, donc il fallait faire sortir deux conduits. Tout est sur mesure, en fait, donc c'était assez technique et compliqué à faire, mais on l'a fait. Et le résultat est plutôt cool, parce que le volume sonore est assez élevé, la cuisine fonctionne bien, le chef Fred se régale.
Qui était le chef de l'entrée des artistes.
Ouais, c'est un peu, on revient un peu, on fait un peu...
la famille.
Il y a Clément aussi, qui est mon manager aujourd'hui, et qui était là à Fadjo au tout début, qui était manager de Fadjo. Donc là, il est chez nous là-bas. Enfin, c'est tout un... Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a Séverine aussi en cuisine, sans touch, que j'ai formé au bar à l'époque. Des cocktails que j'ai rencontrés via la musique et que j'ai formé pour les cocktails et qui donc là aujourd'hui a fait Ferrandi et qui est en cuisine. Elle cuisine chez nous aussi. Donc c'est quand même, il y a quand même pas mal de fidèles, entre guillemets, je dirais, qui sont revenus, qui ont été séduits par le projet. Et ça se fait naturellement. Et en fait, on a l'impression que c'est ouvert depuis 10 ans déjà, ce truc-là, parce qu'on se sent bien dans ce lieu. On a l'impression c'est bien huilé, parce qu'on se fait déchirer tous les soirs. Donc, on a pris l'habitude de pouvoir bosser pas mal, s'organiser. Et puis, on se connaît tous. Et puis, les clients sont plus ou moins les mêmes. Et on retrouve des clients aussi qu'on avait à l'époque et qui sont contents de nous retrouver, parce que c'est vraiment à deux rues de l'entrée des artistes. Il y a Bettino, en fait, aussi en face, un disquaire que j'ai connu à l'époque avec Edouard, où on allait poser les flyers pour les soirées de Joe. Donc là, voilà, c'était un peu aussi Bettino. En sortant de Bettino, en fait, où j'achète souvent des disques, j'ai vu l'annonce et j'ai vu ce local et j'ai appelé. En fait, c'est en sortant de chez Bettino.
Et que t'as chopé le local?
Je revenais de Tel Aviv, j'ai vu le truc. En sortant, j'étais chaud et j'ai appelé. C'était libre, la proprio est super cool. Donc, ça s'est fait assez... c'était pas calculé. Je savais que je voulais faire un lieu comme ça, mais je savais pas quand ou comment. Et puis un jour, en sortant de chez Bettino, j'ai vu cette pancarte et feu, quoi.
Les planètes étaient alignées.
Ouais. Tout est aligné. Enfin, il y a tout qui va bien, quoi.
T'imaginais avoir autant d'affaires, 6 affaires à quel âge t'as? 33?
34. Je vais avoir 35 le 10 juillet. J'espère qu'on sera sorti de tout ce truc pour faire une grosse teuf, là, parce que
ah ouais.
J'ai 35 ans et je pense que ça sera, si on arrive à sortir et à se retrouver, ce sera un gros, gros anniversaire.
T'imaginais avoir toutes ces affaires à ton âge?
Non. Non, je sais pas, j'imaginais même pas être patron, en fait, hein, parce que j'ai pas fait d'études pour, j'ai pas... Tu sais, moi, je viens du Sud, je suis un peu... j'étais un peu le petit turbulent, pas débile, mais le petit turbulent qui se contentait du minimum. Et puis, je n'avais pas forcément de... Ouais, moi, je voulais bosser, je voulais être tranquille, je voulais pas... J'ai pas fait d'école de commerce, de trucs, je voulais pas être une machine à ouvrir des machines, des restos, des trucs, j'y pensais même pas.
Tu voulais faire quoi?
quoi?
Je savais pas trop. J'en savais rien. Moi, j'ai toujours joué au foot, donc j'ai jamais espéré être footballeur pro parce que j'avais pas le physique. Mais j'aimais ça, j'aimais les potes, j'aimais aller à la plage, j'aimais la vie, quoi.
Et Colotelière, c'était par dépit?
Non, même pas. C'est encore pire. C'est que j'étais pas un cancre, mais comme je foutais rien, si tu veux, on a eu ma mère avait un contact de quelqu'un dans une école hôtelière, une super école hôtelière pour le coup à Marseille, et j'ai été pistonné. Donc c'est te dire le niveau du mec, quoi. J'étais pistonné pour rentrer, sinon mon dossier était refusé parce que j'avais redoublé ma troisième parce que je foutais rien. Et après, vu que j'en avais marre et tout ça, enfin j'ai compris que c'était pas pour moi. Et j'ai cherché une voie où je voulais aller bosser. Comme j'avais fait des saisons à Cassis parce que j'ai grandi à Cassis, j'avais fait des saisons en tant que serveur en cuisine à la plonge à Cassis. Je me suis dit tiens, lycée hôtelier, on m'a pas pris, on m'a pistonné, donc je suis rentré à Marseille l'année d'après où là j'ai fait, en fait, j'étais pressé de travailler, quoi, de rentrer dans la vie active, d'avoir mon appart, d'avoir ma vie, quoi. Et donc, j'ai fait mon BEP, et après, j'ai fait la cuisine, j'ai appris un peu les bases de la cuisine, de la salle. BEP Bac Pro, et mon année complémentaire, ils appellent ça une mention complémentaire, comme si c'était un truc Bac plus 12, tu vois, mais en fait, c'est juste une année de plus où t'apprends soit la sommellerie, soit le bar, le milieu du bar, les cocktails, l'élaboration des spiritueux, tout ce qui est lié à l'alcool, quoi. Et donc, j'ai fait cette année-là, qui était, j'avais des bons résultats pour le coup, en BEP Bac, parce que c'était un truc qui me plaisait. Et j'y allais volontiers, il y avait la practice, tout ça, donc on faisait de la cuisine, on faisait du service, on apprenait vraiment les bases et c'était cool. Et donc après j'ai décidé de faire cette mention, il y avait que 12 élèves sur les 400 à peu près présentations de la région parce que c'était par région. Donc j'ai été pris pas par piston parce que j'avais des bons résultats. Donc j'ai fait cette mention complémentaire barman et là j'ai kiffé. On était les restats du lycée, costard spécial, file prioritaire dans la cantine et tout, c'est l'année où tu commences à avoir un scooter un peu cool, tu commences à avoir les filles qui te courent après et tout parce que t'es barman, c'est un peu, t'as 16, 17 ans quoi, donc t'es un peu, tu vois, t'es un gamin, donc 17, enfin c'est entre 16 et 18 quoi, je sais plus exactement, mais voilà, t'es un gamin.
Et t'as choisi le bar pour ça, pour pas faire la queue à la cantine et avoir...
Ouais, et nous rendait fous là les mecs, parce que nous on poireautait pendant des heures là avec notre costard en papier crépon noir et notre chemise blanche et notre nœud pape là, et eux ils avaient leur petit pantalon gris chiné, veste bleue croisée avec la cravate de l'association des barman de France, rouge avec la chemise blanche nickel, et ça nous rendait fous. Donc t'en avais qui étaient, enfin il y avait qui étaient garés devant avec les caisses et son système devant, tu sais, ils faisaient un peu les kékés. Nous on était là à pied dehors, enfin pendant les années BEP et bac, donc ça rendait un peu fou. Donc non, c'était marrant, mais j'ai pas fait ça pour ça, mais non parce que je voulais continuer dans cette branche, ça me plaisait, et puis que ouais, puis ça m'intéressait quoi, d'apprendre à faire des cocktails. T'avais des stages prestigieux dans les palaces, comme dans les cuisines d'ailleurs, mais la cuisine dans les palaces c'est moins sexy que derrière un bar, c'est plus dur. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça quoi. Après c'est les stages, les trucs.
Plaza, Park Hyatt, Monte Carlo.
Voilà, donc là on t'oblige pas, mais c'est parce que c'est comme ça, donc c'est forcément des stages dans des palaces, dans des endroits, dans des cuisines étoilées, dans des endroits luxe quoi.
Ouais, puis pour revenir 20 ans, je te vieillis 15 ans en arrière, les bars c'était dans les palaces. Des bars à cocktails.
Ouais, c'est clair. Enfin, il y avait toujours ces bars, mais qui étaient que nos profs connaissaient. Enfin, il y a le Harris Bar à Paris, quoi. Tu vois. Après, sinon, c'était vraiment, on nous parlait que de bars d'hôtel, quoi. C'était des bars qui dépendaient d'un hôtel, avec le chef barman qui a 75 ans, qui est là depuis qu'il a 18 ans. Tu payes ton cocktail hyper cher. C'est ça, quoi.
Toi, t'as commencé dans ce milieu. Enfin, ta culture du cocktail, tu l'as eu dans ce milieu-là.
Ah, complètement, ouais. Parce que c'était comme ça. On n'imaginait même pas qu'on pouvait faire des cocktails dans des bars indépendants avec des jus de fruits frais, des sirops maison, des bitters maison, des trucs comme on a connu plus tard, quoi.
Ouais, c'était un autre monde.
Mais non, c'était Curaçao bleu, les cocktails France bleu, blanc, rouge à l'étage. Truc bien kitsch, quoi. Quand tu t'ouvres un bouquin cocktail, les classiques, voilà, tu tombes sur des trucs comme ça, quoi.
Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là de passage dans les palaces, dans les bars, bars d'hôtel?
Je retiens beaucoup de trucs négatifs, enfin pas cool. Pas mal de trucs cool dans le sens où ça t'apporte pas mal de rigueur, ça te calme un peu quoi, quand t'es un peu foufou comme je l'étais. Et ça te cadre, ça t'apprend à respecter vraiment toutes les règles de service et de justifier le fait qu'un mec il paye son cocktail. Je sais pas, 20, 25 euros, parce qu'il paye pas les produits clairement. Il paye vraiment un service, un cadre, voilà quoi. Tout dit, hein, parce que les produits utilisés sont crachés sur les hôtels. Peut-être que maintenant ça a changé, je veux pas parler sans savoir, mais à l'époque, c'était des produits de pas très bonne qualité, quoi. C'était des trucs, des liqueurs industrielles, les sirops, pareil, des trucs. Il y avait quasi rien de maison, quoi. Les purées de fruits, c'est du truc surgelé. Enfin, c'était pas cool pour ça, si tu veux. Mais donc moi, j'ai fait pas mal d'hôtels comme ça.
Par contre, tu te projetais à rester dans cet univers de luxe ou...
Ben, au début, tu te dis, t'es jeune, donc t'arrives dans le milieu professionnel, t'es plus chez toi, t'arrives à Paris. Et moi, pour ma part, j'arrivais à Paris au parc Hyatt. J'ai commencé après mes stages sur la Côte d'Azur au Nouga Hilton à l'époque, stage de bar, etc., où c'était cool. J'ai reçu une offre pour un poste de commis de bar au bar Parc Hyatt à Paris, rue de la Paix, près de la place Vendôme. J'ai commencé ici, où j'arrive à 18, 19 ans à Paris, tout seul, maison de bonne, au sixième étage, à l'Oval Opéré. Tu gagnes des peanuts, t'es tout seul, tu connais personne. C'était un peu compliqué, donc j'ai un peu craqué, je suis pas resté longtemps, je suis resté 4-5 mois. Et là, j'ai trouvé un boulot en fait dans un autre hôtel de luxe à Monaco, chez Robuchon, pas loin de l'hôtel de Paris, où je suis resté le temps de mes 3 CDD de 6 mois, parce que t'as pas le droit à plus. Donc je suis resté un an et demi à Monaco, où j'ai appris, et là j'étais logé. J'avais une maison bord de mer, à l'est bord de mer, avec un pote, hein, c'était cool. Et après j'ai repris mes recherches sur Paris parce que je me suis dit, tiens, je vais pas rester sur une mauvaise expérience et un échec. Donc, je suis reparti avec un peu plus de maturité, un peu plus d'envie. Et donc là, je suis arrivé au Plaza Athénée. Je suis resté 2 ans. Et après, j'ai fait le Murano. Donc voilà, mais ça me saoulait un peu, cet univers de luxe où il faut, t'as un numéro, tu vas chercher ton costume, t'as un numéro derrière, quoi. C'est pas ton nom, c'est plein de trucs. Puis j'avais pas envie de voir, quand je regardais autour de moi dans la hiérarchie,
ça te faisait pas rêver.
J'avais pas envie d'être chef barman à 60 balais dans l'endroit et d'être là depuis 35 piges, de pas évoluer, de pas aller plus loin que ça, quoi. Tu vois, c'est quand même un univers qui est assez compliqué parce que t'as une clientèle spéciale qui vit pas dans le même univers que toi et tu dois t'aligner à leur mode de vie et toi t'as pas forcément les mêmes réflexes de vie, quoi, de tous les jours. Donc c'est un peu jouer un rôle aussi d'être au service dans un palace, parce que t'as clairement pas la même vie, quoi, que les clients, quoi. On n'est pas dans la même sphère, quoi. Donc non, ça m'excitait pas plus que ça. Et puis tu tournes en rond parce que je te dis, tu travailles pas des produits, en tout cas pour ma part, au bar, donc c'était pas fou, quoi.
Il y avait pas une créativité folle.
Non. Enfin, il y avait c'était un peu, t'avais vite fait le tour et il y avait pas trop d'évolution possible et j'avais pas envie de stagner et je te dis de finir chef barman d'un hôtel de luxe, quoi. C'était bien à l'époque quand tu lis les bouquins, les classiques, etc., parce que à l'époque c'était comme ça, mais je pense que j'avais compris qu'il y avait une évolution et les gars de l'expé avaient bien compris aussi. Et donc c'était plus ça qui m'intéressait, quoi, de m'habiller normalement, d'être moi-même, enfin d'être, tu vois, d'arriver au taf en ayant ma personnalité, d'être comme je suis et de discuter de choses normales avec les clients et pas de choses que je connais pas, quoi.
Et c'est en passant donc dans un des établissements de l'expérimental, le Prescription Cocktail Club, que t'as vu qu'il y avait possibilité effectivement d'être toi-même et de faire ton métier différemment.
Ouais. Alors, en fait, avant, je suis passé au Murano. C'est là que j'ai rencontré Edouard. Il était responsable du restaurant.
Ouais, vous étiez une bande là-bas, non?
Ouais, c'était, on était une bonne bande là-bas. On s'était fait une sacrée. Puis c'était un hôtel un peu plus. C'était un 4 étoiles, mais c'était un peu plus.
C'était différent.
Puis des contrats, il y avait des grosses soirées, il y avait un bar, c'était un peu plus moderne, c'était moins poussiéreux, c'était vraiment la teuf tout le temps. Il y avait une belle équipe, il y avait des jeunes partout, c'était un hôtel mais vraiment cool, il y avait des soirées tout le temps, c'était bien branché à l'époque. Donc moi j'ai rencontré Edouard là-bas pendant 2 ans, on a travaillé ensemble. J'étais au bar, il était au resto et là on a commencé à faire la teuf, vraiment aller dans les, lui il était déjà dans son avec son frère et Julo, notre pote, dans leur soirée, Joe là au June où il y avait des promoteurs de DJ, etc., donc on sortait tout le temps. Là j'ai commencé à goûter à la vraie vie, enfin en tout cas ce qui est la mienne aujourd'hui, mon univers, et que j'ai pas lâché parce que voilà, les soirées, les trucs, enfin on a commencé à vivre, quoi. J'ai rencontré ces gens là et ça m'a ouvert un peu à la vie parisienne que je préfère aujourd'hui. Et après, du coup, je suis parti. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller bosser dans un endroit un peu cool. Et là, j'ai postulé dans le groupe XP. J'ai bossé aux prescriptions, en fait. J'ai commencé un peu à l'XP, après le premier. Et après, je suis parti à rue Mazarine. Là, je suis resté pareil un peu moins de 2 ans. Et là, c'était cool parce que voilà, on travaillait des produits, on faisait nos trucs, enfin tous nos sirops, nos bitters, on distillait même nos trucs. Enfin, c'était cool, quoi. C'était intéressant. On était sans cesse en train de chercher des recettes. J'irais pas dire que c'est de la cuisine comme les gens peuvent dire parce que c'est pas le même métier, mais t'es quand même un peu plus en train de chercher un équilibre avec les produits, travailler des produits de saison, des trucs de base, hein, mais enfin qu'aujourd'hui sont les bases, mais qu'on retrouve pas forcément, on retrouvait pas forcément en tout cas dans l'époque, dans les années 2000, dans les hôtels, quoi. Donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était un peu la voie qui me faisait plaisir. Et du coup, bah après ça, on s'est retrouvé avec Edouard, où on se voyait tout le temps. Hein, c'était pas le sortait tout le temps, on se retrouvait tous les jours. Et on s'est dit, on va faire notre truc, quoi. Et donc est née l'entrée des artistes rue de Crussol, parce qu'on a eu on avait un point commun, c'est qu'on supportait plus la hiérarchie dans les hôtels et dans la hiérarchie tout court. Être dirigé par des mecs qui, après coup, on estimait qu'il n'y avait pas de goût ou qui étaient un peu has-been ou autre. Et donc, on a décidé de voler de nos propres ailes et de lancer ce projet-là qui a connu un franc succès et qui a été vraiment un élément vraiment cool, quoi, pour se lancer et pour faire vraiment ce qu'on voulait faire, quoi.
Et le vin nature, c'est venu comment? Parce que, à l'entrée des artistes, il y avait déjà une belle carte de vin à l'époque.
Ouais, ouais, complètement. Ben, on avait déjà une carte, on avait déjà acheté des vins pendant l'époque où on travaillait pas encore à l'entrée, enfin, on a pas monté l'entrée des artistes. On a découvert, enfin, moi, j'ai découvert le vin nature, c'était, du coup, pendant l'expérience Murano, là, qui a été, où j'ai fait plein de bonnes rencontres et de bonnes découvertes. Et donc c'était là avec il y avait un gars qui s'appelle toujours d'ailleurs Julien Ducerf, qui est sommelier et qui nous a mis un peu le pied à l'étrier. À l'époque, il y avait du Xavier Caillard, pour ceux qui connaissent le vin nature, c'est un peu inédit d'avoir ça au verre, et donc on le faisait au verre, quoi. On le faisait, c'est un vin qui est hyper rare aujourd'hui et qui est plus trop produit d'ailleurs, mais voilà, on faisait ça au verre et j'ai goûté dans des soirées. La première fois que j'ai goûté, c'était chez Edouard, on faisait une teuf chez lui avec plein de potes, et j'ai goûté ça, j'ai dit putain, on dirait de ça pue l'œuf ton truc, c'est dégueulasse, je pourrais jamais ça de ma vie. Et puis à force d'ouvrir des quilles à Murano et de sortir et d'aller faire des restos, enfin de s'y mettre un peu, quoi, de comprendre et tout, depuis voilà, on n'a pas lâché, quoi. Depuis, c'est impossible, même pour déglacer des oignons, je pourrais même plus utiliser un vin de supermarché, quoi. Donc c'était l'époque Murano, et ensuite, en effet, quand on a lancé l'entrée des artistes, on était déjà bien imprégné, puisqu'on a ouvert en 2011.
C'était plus facile d'être deux pour se lancer au début, parce que tu disais que tu avais jamais vraiment rêvé d'être entrepreneur, mais finalement tu l'as fait. Et...
ouais, c'était pas un truc que je m'étais dit, je me suis pas dit tiens, je vais être entrepreneur, je vais ouvrir plein de bouclards.
C'était pas un rêve.
Naturellement. Non. Ça s'est fait naturellement. Après, peut-être qu'il y a un moment où je me suis dit, tiens, ça serait cool d'avoir un resto, un bar, un truc. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais après, je me suis pas dit, je vais faire 6 restos, 5, 6. J'ai pas calculé, c'est plus des opportunités.
C'était plus facile d'être deux avec Edouard pour commencer?
C'était plus facile, ouais, clairement, parce que, c'est ta première affaire, t'as pas d'argent, et puis t'es plus fort à deux, quoi, t'es plus fort, Edouard, il est plus âgé que moi, donc, je vais pas donner son âge parce que ça se fait pas, mais il était déjà un peu plus mature que moi à l'époque, donc, je peux dire que c'est un peu aussi, je me suis un peu laissé guider, j'avais un peu la folie, les trucs, donc on était assez complémentaires sur plein de choses. Et donc, ouais, c'était bien d'être deux pour justement cette complémentarité, pour arriver à, lui, il avait plutôt le côté un peu, c'était un peu la force tranquille, moi j'étais un peu la fougue, et ça a bien pris parce que du coup, voilà, ça, c'était un binôme qui marchait bien, ouais. Et du coup, on s'est pas trompé parce qu'on a marché dès le départ, c'était cool, ça a plu, donc c'était très important d'être à deux. Après, il y a des gens qui s'en sortent mieux que d'autres seuls, je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait avec un pote à la base, ouais.
Et aujourd'hui, en tout cas en 2015, quand t'as ouvert la pizzeria, c'était plus facile de l'avoir fait déjà une première fois, et ça t'a aidé à te lancer seul avec la pizzeria?
Ça m'a aidé, c'est certain, parce que j'avais des bases, des réflexes à avoir, etc. Puis c'est un système, quoi. C'est un truc qui se met en place. Tu t'apprends à vivre avec. C'est un nouveau style de vie, c'est un nouveau mode de vie. Donc ouvrir tout seul, maintenant, je l'ai fait. C'est pas plus compliqué, non. Ça manque un peu d'avoir un associé qui est un pote à la base aussi, parce que je te dis, il y a des choses des fois qui sont, il y a des décisions des fois qui sont plus intéressantes ou plus malines ou des fois tu te dis ah non, en fait ça il faut pas, enfin il y a des décisions qui sont parfois plus cool quand t'es deux. Mais c'est pas un frein pour moi d'être seul aujourd'hui, hein, en tout cas loin de là.
Donc t'as commencé par la pizzeria en 2015.
Ouais, bah du coup on a migré. En fait, donc du coup parce que comme c'était une location gérance, ce premier entrée des artistes, donc on avait un contrat qu'on a repoussé, Et après on a déménagé après de longs travaux à Pigalle, donc l'entrée des artistes Pigalle.
Oui, qui était plus du tout de la même envergure.
Plus du tout, non, on est pas, c'était 104 mètres carrés, des cuisines, enfin il y avait, c'est un lieu de nuit sur deux niveaux avec une mezzanine au milieu. Là on s'est associé avec une troisième personne pour diverses raisons et donc on est parti là-bas et donc ça a duré pour ma part il y a eu des travaux qui ont été très longs. Pendant plus d'un an, il y a eu des travaux.
Je me souviens, je crois que je vous appelais à l'époque pour savoir quand ça allait ouvrir.
Ouais, c'est très long. Et puis, maudit, que tout le quai. En fait, on avait un impératif par rapport à la copro voisine et on devait absolument ouvrir le 21 janvier 2015. Ils nous avaient fixé la date, vous pouvez plus de travaux, machin, on n'avait plus le droit. Et le 19, ça avait pris feu. Le bar avait pris feu. En gros, il y avait des ouvriers qui travaillaient jour et nuit, qui finissaient le parquet, donc ils sciaient derrière le bar et ils fumaient des clopes, évidemment, à l'intérieur. Et en fait, il y a un mégot qui a dû rester, qui est parti dans les sciures, qui était sous les plans de travail de bar en inox. Et ça a pris doucement et ça a cramé toute la nuit. Et c'est le voisin de gardien de l'immeuble d'à côté, le veilleur de nuit, en fait, qui nous a appelé suite partout. Moi, j'habitais à côté à l'époque, pour nous dire qu'il y avait de la fumée qui sortait de la fenêtre, qui heureusement était cassée à l'étage. Et en fait, voilà, il y avait les pompiers. Moi, quand je suis arrivé sur place, il y avait pompiers qui avaient cassé la porte de secours. Il y avait 20 cm d'eau partout, tout cramé, parce qu'il y a beaucoup de bois dedans. Donc, deux jours avant, ça avait cramé. Donc, ça partait très mal. J'ai après un an et demi de travaux, le truc qui brûle deux jours avant l'ouverture. Déjà, moi, j'étais assez épuisé de ça. Après, on a ouvert, c'était cool. Pour diverses raisons, moi, je suis resté un an là-bas. J'ai ouvert en parallèle Fadjo, du coup, rue de Rochechouart, qui est pas très loin parce que je devais gérer les deux à côté. Donc, j'ai cherché un local pas loin.
Là, tout seul, donc.
Tout seul, du coup, ouais. Donc, j'ai trouvé un local qui était vide, donc à 1 km vol d'oiseau, où j'ai jonglé un peu sur les deux, les travaux, Fadjo et la création de Fadjo et l'entrée des artistes. On faisait la nuit, etc. Moi, je me suis pas trop entendu avec le troisième associé. Donc voilà, il y avait tout un tas de trucs qui ont fait que j'ai quitté l'association, malheureusement. Et donc, je me suis concentré du coup sur Fadjo et le reste après, quoi.
Et la pizzeria, au début, c'était l'idée de retrouver un peu les pizzas de son enfance à Cassis.
Ouais, c'était un peu, en fait, à la base des bases, c'était plutôt refaire un nouveau truc, un nouveau challenge, une nouvelle expérience. Et surtout, quitter le monde de la nuit. Parce que physiquement, c'est compliqué. Tu finis hyper tôt. Quand t'es en couple, c'est encore plus dur. T'arrives à 8h du matin le samedi, 8h du matin le dimanche, tous les week-ends. Ouais, c'est compliqué, quoi. Donc, c'était un truc... Après, il y a le corps qui fatigue. Il y a plein de facteurs qui font que c'était compliqué. Donc, je voulais plus de ça à cette époque-là. C'était trop dur pour ma vie, pour plein de trucs. Donc, j'ai décidé de faire un resto. Et du coup, comme moi, je sais cuisiner à la maison. Je fais des trucs cool, mais je suis pas cuisinier. Je serais incapable de gérer une cuisine en tant que chef. Que c'est un vrai métier, c'est pas parce que tu cuisines bien à la maison que tu es capable de gérer une cuisine et des cuisiniers. Donc je me suis dit, hop, je pars sur un truc qui me fait kiffer. Je revenais de Brooklyn, j'étais allé chez Roberta, j'avais kiffé l'endroit. Je me suis dit, la pizza, c'est peut-être un truc plus facile, monoproduit, ça me fait kiffer, le vin nature, le truc, ça existe pas forcément à Paris. Moi, quand j'étais petit, mon grand-père, il m'amenait à côté de la Cassis, à Roquefort-la-Bédoule, ce village super sexy, où il y avait un vieux qui faisait qui avait un potager, un jardin pas loin de ce village, justement, et qui s'était fait un camion Citroën, un peu avec comme les Piaggio, mais Citroën, avec l'arrière du truck en mode four à bois, quoi, ciel ouvert. Et il faisait avec les tomates de son jardin, les produits de son jardin, des pizzas, mais qu'il maîtrisait pas du tout. D'ailleurs, c'était cramé, c'était des pizzas très fines, cramées, mais avec des produits. Il avait le mérite de faire des choses avec des produits, pour le coup, de son potager. Et donc, on allait une fois par semaine chercher ce truc-là. Et moi, j'ai ce souvenir de pizza là avec mon grand-père, qui me manque beaucoup, de ce côté un peu four à bois, là, côté pizza un peu brûlé, mais avec des bons produits dessus. J'ai ce souvenir là de gamin et ce souvenir de Roberta's où il y a ce côté un peu branché, où c'est cool, tu bois de la bonne bière, les serveurs sont méga cool, de la brique, des lieux un peu extérieurs, un endroit cool, quoi, avec une pizza qui est bonne et qui est faite, qui est cuisinée au four à bois. Donc là, pareil, fusion d'idées, machin, est né Fadjo avec ce souvenir de gamin, de pizza un peu four à bois et de ce côté un peu cool, briques cassées, machin, vin nature, la playlist hip-hop old school, que tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, à Paris maintenant, Fadjo. Et voilà, ça fait 5 ans. Là, ça fera 5 ans en août. Et donc, j'étais content d'avoir fait ça. Et ça m'a amené, bah, du coup, après, petit à petit, sur d'autres restos, j'ai un peu varié les plaisirs, quoi.
T'as décliné l'univers. Au début, t'as ouvert Pacchio en face, ouais, qui est devenu l'Osteria, et ensuite la Salumeria.
Ouais, Pacchio. Au début, c'était un salon de massage. En fait, là, j'avais pas forcément l'idée de faire un resto en face, mais j'avais un panneau. Là, il y avait un salon de massage chinois avec des trucs horribles, happy hour en espèces entre 10h et midi. Enfin, c'était l'enfer. Et devant Tour Rouge, un jour, il y avait un panneau devant Baya CD. J'ai appelé le numéro. C'était un gars qui m'a fait hésiter pendant les heures d'ouverture du bouclard. Donc j'ai visité ça, donc tout est cloisonné, tu vois rien, on te dit que ça fait 40 mètres carrés, mais tu sais pas parce qu'il y a des cloisons partout, c'est horrible, tu touches à rien. Donc pas un gros pas de porte, rien, j'ai dit ok, je le prends, et je savais pas quoi faire encore, donc je l'ai pris sans savoir.
Ça fallait de l'imagination, hein.
ouais, il y avait pas un gros loyer, du coup je me suis dit je vais faire un truc, peut-être une cave, on verra, je fais les travaux, on verra. Et là j'ai rencontré Masaki, qui anciennement chef de Pierre Jeancou, pendant 4 ou 5 ans... rue des Petites Écuries avec Sota, et du coup je l'ai rencontré au Clown Bar, on buvait un coup et j'étais avec un pote et qui m'a présenté Masaki qui était là au comptoir, et j'ai dit écoute voilà, j'ai un local, j'aimerais faire je sais pas quoi, si tu veux on fait un resto, tu fais ce que tu veux, on ouvre un resto. Du coup le lendemain il m'a dit ok, ça allait très vite, donc on a fait le resto un peu autour de Masaki, et comme il est japonais, qu'il est très fidèle et qu'il est encore là après 3 ans, 4 ans maintenant bientôt, tu te dis bon, tu peux faire ça. Donc c'est ce qui s'est passé. On a fait au début un format, en fait on s'est un peu trompé sur le format qu'on a fait. Donc Pacchio, c'était un resto de petites assiettes, mais les gens comprenaient pas forcément parce que c'est configuré restaurant. C'est un endroit un peu chaleureux, c'est pas très tapas, si tu veux. Donc les gens commandaient, comprenaient pas. Mais j'ai commandé ci, j'ai commandé là. Donc on a expliqué, on a essayé de. Donc on a arrêté, en fait. Enfin, on est revenu au classique, menu entrée plat dessert à la carte, avec un menu assez court. Et après j'ai dit on va faire un truc un peu plus lisible. Du coup on va profiter de ce changement pour garder le nom Fadjo et transformer en Osteria, du coup un petit bistrot, quoi. Parce que Masaki, sa cuisine est quand même bien axée méditerranéenne. Il adore faire les pastas. Après il peut te faire des homards de fou aussi, mais il fait plein de trucs typés un peu sud, quoi. Il a toujours cuisiné un peu.
Parce que finalement la cuisine n'a pas changé, le chef n'a pas changé. Il y a juste le nom et un peu la formule, mais.
Non, le nom et la forme simplement. Après la cuisine c'est la même. C'est cuisson, c'est jus, c'est sa minutie, tout reste pareil. C'est juste le format, en fait. Au lieu de servir dans des petites assiettes à des petits prix, on a fait des grosses assiettes avec des prix normaux, quoi. Entrée, plat, dessert, avec un menu changeant, 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, au fil des saisons, évidemment, selon ses humeurs. Il y a toujours un peu une ligne dans les plats. C'est toujours un poisson, une viande et une pasta. Ça changera pas. Donc, il tisse un peu avec ça. Et puis, écoute, il se régale. Nous aussi, les clients aussi. Donc, depuis, on est toujours complet. C'est un lieu très chaleureux. C'est pour ça qu'on est ouvert que le soir, sauf le samedi, dimanche. C'est un lieu où les gens prennent le temps. Ils sont bien. C'est un endroit calme. Contrairement à la pizzeria où la musique est très forte. Voilà. C'est un autre mood. Et du coup, après, il y a un local. Il y avait un City's Market qui s'est collé, qui était collé à Fadjo. C'était un peu cracra. J'aimais bien les gars qui étaient là-bas. Un jour, je suis allé les voir. Je leur ai dit, les gars, si vous partez, vous me dites, je vous reprends le local. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai dit, on va faire une épicerie. On va faire Fadjo, la Salumeria. Donc, la Salumeria, c'est une épicerie où on vend beaucoup de charcuterie, de vin en Italie. Donc, on a surfé un peu sur toujours Fadjo, le nom, tout est à proximité. Et puis, c'est très complémentaire dans le sens où pour nous, en termes de logistique, c'est très pratique. On a une grande chambre froide, on a de quoi stocker beaucoup de vin. Et puis, du coup, on s'est dit, plutôt que de le stocker bêtement au sous-sol, autant mettre des choses en vente aussi. Du coup, on a créé ce lieu de vie aussi, qui est une cave à manger le soir, où on sert tout ce qu'on vend. En gros, on fait de la charcuterie à la coupe, il y a des petites assiettes, éviter l'autonato, des choses assez simples à préparer. Et voilà, du coup, on est ouvert en épicerie. Et c'est un peu celle qui m'a un peu sauvé le moral aujourd'hui, du coup, cette Salumeria pour le confinement, parce que sinon, j'aurais pas pu rester trop longtemps chez moi. Donc, voilà, ça c'est, en fait, il y a eu un truc toutes les années, il y a eu un truc dans la rue. Après, il y a entre l'Osteria et la Salumeria, on a eu ce contrat là avec Ground Control, où on est au cœur du food market. On a un emplacement, on a un contrat avec eux. Là, c'était 2-3 ans. Maintenant, c'est repoussé pendant 2 ans. Bon, là, je sais pas comment ça se passe parce que c'est un lieu qui reçoit beaucoup de monde, qu'on va peut-être devoir attendre pour savoir quand est-ce qu'on pourra ouvrir. Et donc là-bas, pareil, on a Fadjo avec celui qui a mon meilleur pote du sud qui est venu à Paris pour ce projet, qui s'occupe du lieu, Rudy, qui m'appelait Bambino à l'époque quand j'étais gamin, qui hurlait Bambino. Et donc il y a eu ça, et puis après ben il y a eu Bambino que tu connais, ça sortant de chez Bettino, et Fadjo Passager Panorama grâce à Simone Tando qui m'a dit frate, ça me ferait plaisir que tu viennes faire une pizza parce qu'il kiffe les pizzas. Donc il aimerait apprendre à faire les pizzas et je suis sûr que c'est pour me voler le business, hein, je le connais. Et non, je rigole. Et du coup, il m'a dit
bah viens, on fait carnage tous les deux. Le passage des panoramas, il est à nous, nana. J'ai un local. Je te présente à la nana qui veut revendre ses trucs, etc. Bon, on est allé le voir. Ça s'est fait en fait très très rapidement. Je me suis entendu avec Frédéric, donc l'ex patronne des Noglu. Et donc voilà, j'ai repris ce local là, genre à 20 mètres de Racine. Et donc là, bon, ça a été écourté rapidement, mais ça commençait plutôt cool avec Simone à côté. Il y avait un bon mood, quoi. Et donc voilà, c'était le dernier, avant quelques autres projets, mais là, je t'avoue que c'est un peu la douche froide, donc je sais pas trop si... je pense qu'on va avoir pas mal de taf avant de refaire quelque chose. Je pense qu'il faut être un peu maso pour ouvrir un autre truc après confinement, là. Donc on verra, c'était le dernier en liste.
Et donc tu saisis les opportunités qu'on te propose, tu cherches des locaux pour réaliser tes idées, c'est un peu un mélange.
Bah c'est un peu là comme je dis, c'est un peu un mélange des deux, ouais, c'est un peu le premier je l'ai cherché évidemment. Après c'était plus des belles rencontres, des potes, des connexions, puis le fait d'être implanté par exemple à un endroit style rue de Rochechouart où on a trois établissements maintenant côte à côte et face à face, c'était plus copinage avec les voisins, tu sens que les mecs ils sont un peu, leur activité elle est un peu terminée, tu sympathises, tu saisis les opportunités quoi, après t'adaptes un peu, donc c'est un peu un mélange de tout, ouais. Mélange de contacts, de recherche et d'envie aussi de penser à un nouveau lieu quoi.
Donc on va passer à l'aller-retour, ton âge?
Mon âge 34, je vais sur mes 35 bientôt là pour le 10 juillet.
Ton plat ou vin signature?
J'en ai pas vraiment parce que je suis pas vraiment un cuisinier, mais à la maison je sais que j'aime bien faire plaisir avec ma bolo.
Et ton plat préféré à manger?
À manger, il y en a énormément, c'est une question très dure, j'imagine pour tout le monde, mais je dirais le Kunitora udon. C'est un truc je pourrais en manger justement Ruveldo, je pourrais en manger d'ailleurs je mange 2-3 fois par semaine là-bas, je vais seul quelques fois avec des potes comme on avait pu le faire avec Simone, mais j'adore aller là-bas, ça me rappelle le Japon, c'est bon par les prix mais sinon c'est magnifique.
Et le chef ou restaurateur que t'admires le plus?
C'est pareil, il y en a pas mal. Après je suis assez admiratif d'un gars qui s'appelle Yves Candebord. Parce que c'est un mec, c'est une autre génération, c'est un peu les gars qui indirectement nous ont tout appris. Puis il y a son franc-parler, sa bonne humeur, sa joie de vivre, etc. Il a été présent pour moi pour des raisons quand perso ça allait un peu moins bien. Il a toujours été présent avec un vigneron aussi que j'actionne beaucoup qui s'appelle Antoine Marie Arena. C'est un peu une clique, une génération et ce style de gars que j'aime bien. Puis sa cuisine est franche, c'est des endroits où j'aime bien aller. Le personnage est top. Enfin, ça fait du bien de voir des gens comme ça, quoi.
Ton ingrédient préféré?
Ça paraît être chelou ce que je vais dire, mais j'adore les radis. Je me régale avec les radis. C'est croquant, c'est un peu épicé. Quand tu mets un peu de sel dessus, j'adore ça. J'adore les radis.
Et ton ingrédient détesté?
Les huîtres. Enfin, l'huître.
Ah.
Je suis pas allergique, je suis pas mon corps l'accepte pas en fait, je crois que je déteste ça, le goût hyper iodé comme ça, la texture, j'ai essayé hein, c'est pas juste ça me dégoûte, c'est juste j'ai essayé plusieurs fois dans des juste comme ça cru dans des grands restos et ça passe jamais quoi. C'est pas un truc qui me parle.
Ton ustensile fétiche?
J'ai un petit couteau japonais pliant, j'avais ramené du Japon et qui me sert non pas à cuisiner mais à ouvrir mes pochettes de disques quand je les reçois par courrier et mon courrier aussi. Du coup j'aime bien je sais pas, c'est un kiff à chaque fois que je reçois un disque, je suis content. Du coup j'ai mon petit couteau, c'est super galère à ouvrir les emballages des disques parce que les mecs ils mettent 3 tonnes de scotch, pas cool pour l'environnement, mais j'aime bien utiliser ce couteau là à ce moment là parce que t'incises proprement et il est vraiment dédié à ça quoi, donc je l'aime bien mon petit, il est sur le coin de l'étagère à l'entrée, je l'aime bien.
Ton dernier meilleur repas en ces temps de confinement?
Du coup, là, ça fait un petit moment. J'avais pour habitude d'aller très souvent au resto, parce que c'est quand même aussi une énorme source d'inspiration et ça fait du bien un peu de voir ce qui se passe ailleurs. Mais là, ça fait 2 mois et la dernière grosse claque que j'ai prise, c'était pas la première fois que j'y allais, c'était chez Anada, chez Sushibe. On avait fait un dîner
hyper long avec ma copine. C'était top. C'était vraiment top. C'est Atsushi qui avait réservé la table pour nous. Enfin, le bout de comptoir, un peu en oui. dernière minute. Et c'était vraiment excellent. Il y avait, comme d'hab, enfin, je suis déjà allé 2-3 fois et c'était magnifique. Sushi B, toujours dans le quartier Sainte-Anne, quoi.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ?
Ouais, c'est certainement quand les proches sont fiers de toi, la famille qui est assez loin, ou les bons potes qui te disent « Mec, c'était pas gagné, t'étais un sacré petit con, mais finalement, on est fiers de toi. » C'est un peu, c'est un peu un compliment parce que indirectement, tu te bats un peu pour ça aussi, quoi, pour te faire plaisir non seulement à toi, aux clients, mais aussi pour recevoir un peu de reconnaissance, de compliments, etc. Ça fait partie du, c'est ça qui motive aussi, hein. Tu fais pas que ça pour toi, quoi. Donc, je dirais les compliments des proches.
Et la pire critique?
Alors, la pire critique, ça vient pas forcément d'un mec, en direct ou de quelqu'un c'est plus, parce que ça, en fait, soit en général, tu t'en fous, alors tu le prends c'est une leçon et en fait ça te remet en question quand c'est justifié, mais je dirais que c'est je vais rester très poli, mais c'est ces mecs là qui te défoncent sur les sites là, style TripAdvisor, ou qui savent même pas faire cuire une pasta al dente et qui te défoncent parce que le truc il est pas ci, il est pas là. Mec, si tu fais mieux, reste à la maison, en fait, cuisine chez toi. Nous, nos équipes, c'est des gars qui travaillent très dur, on peut pas être parfait tous les jours, parce que il faut le rappeler, hein, on est là 7/7 midi soir toute l'année, donc il se peut que, désolé, parfois ce soit un peu moins bien, on n'est pas des machines. Et quand c'est pas très justifié comme ça, que les mecs te défoncent avec des grands mots, etc., qui disent à tous leurs potes « n'y allez pas, c'est un scandale », ça m'énerve. Parfois c'est justifié, je dis pas que toutes les critiques négatives sont mauvaises, mais je parle de celles qui sont pas justifiées et pas justifiables, qui s'attaquent gratuitement à moi, du coup, enfin à mes équipes, et du coup c'est à moi un peu indirectement, quoi. Donc les critiques fondées, on les prend et ça fait du bien et ça forme. Par contre, les mecs qui se défoulent gratuitement parce que ils trouvent que 12 € la margarita c'est trop cher, enfin voilà. Après, c'est un exemple, hein, j'en ai des millions, mais c'est eux là, c'est ça, c'est cette critique là qui m'énerve le plus.
Ça signifie quoi pour toi de faire ce métier ?
Le métier de restaurateur ?
Ouais, de restaurateur. Qu'est-ce que tu recherches ?
Bah déjà, c'est une passion. Donc, je pense que j'ai la chance de faire un boulot qui me passionne, parce que c'est quand même une énorme partie une grosse partie de tes journées et de ta vie, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même arriver à faire quelque chose qu'on aime, si on a la chance de le faire. Donc, ça, c'est déjà une passion. Et ce qui m'anime, c'est ça. Et c'est tout ce qui va autour, quoi. Le fait de transmettre son savoir aux nouveaux gars qui arrivent dans l'équipe, aux clients, aux nouvelles idées, le fait de pouvoir voyager, de s'inspirer, du coup de revenir avec plein d'idées. Moi j'adore penser des nouveaux lieux, tu vois, tu commences à me connaître un peu. Ce que j'aime le plus en fait dans tout ça, c'est en fait de penser un lieu, d'imaginer le mood, comment on va servir, qu'est-ce qu'on va faire, proposer, tu vois, essayer de varier un peu les offres, etc.
C'est marrant, c'est vraiment un truc qui revient chez les restaurateurs, c'est ce côté, comme tu dis, enfin, c'est un peu une espèce de drogue, j'ai l'impression, tu vois, d'être sur un nouveau projet et c'est ça qui les transporte le plus.
Ouais, parce qu'en fait, un nouveau projet, ça t'emmène forcément, si ça marche, ça t'emmène sur autre chose. Et moi, comme j'ai pas vraiment une spécialité. Alors oui, j'ai fait beaucoup de bars et de cocktails à l'époque. Là, j'en fais plus du tout ou autrement. Et je me suis intéressé. Enfin, tu vois, je savais pas. Enfin, d'ailleurs, je sais toujours pas faire une pizza. Enfin, je sais la faire, si tu veux, mais je saurais pas tenir un service derrière les fourneaux parce que c'est un vrai métier. Mais je sais pas. J'aime bien trouver les gars, m'inspirer un peu de ce que peuvent m'apporter. En fait, c'est un échange de plein de choses, quoi. La culture de la pizza, je l'avais. Enfin, pour moi, c'était. On allait la chercher à l'époque avec la famille, on le mangeait le dimanche soir parce qu'il y avait rien à manger et qu'on avait la flemme. Ou quand tu es dans une ville comme Brooklyn, comme je disais, enfin dans un quartier comme Brooklyn, tu vois, t'arrives chez Roberta et tu prends une claque. Donc c'est des moments, c'est des choses que si je maîtrisais pas trop. Le bistrot avec Masaki, c'est en fait tout est lié dans ce métier. C'est ça qui est cool aussi, c'est que tu peux, si t'es un peu ouvert d'esprit, t'arrives à pouvoir faire plein de choses, quoi. Et il faut faire confiance au staff, à laisser aussi une part de création aux gars, parce que je suis assez borné. Moi, j'aime bien avoir mes idées, mes trucs. Donc quand je bosse avec des chefs comme Masaki à l'Osteria, je t'avoue que je mets pas trop mon grain de sel dans les menus, parce que lui, c'est quand même voilà, j'adore sa cuisine et il a carte blanche. Donc c'est un peu, c'est ça aussi qui est cool, c'est d'arriver à partager avec avec ton acteur principal et de te laisser aller, quoi.
C'est borné ouvert.
Ouais, borné ouvert, ouais. Un peu ça. Borné au début, et après, quand je vois que le mec, il maîtrise un peu son sujet, j'arrive à échanger, à faire confiance, et ouais, mais c'est cool. Puis maintenant, je suis un peu plus cool qu'avant. Avant, j'étais un peu plus stressé, avec forcément moins d'expérience. Donc, t'es un peu plus flippé, t'as envie de faire les choses bien. Donc, t'es un peu plus relou, en fait. Et là, j'ai appris à être plus cool, à laisser faire un peu aussi tout le monde, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, en fait, ça t'emmène vers plein d'autres univers, et c'est cool.
Auxquels t'avais pas pensé, en fait, ouais, forcément, ouais, parce... au début, et quand il y a 10 ans, t'imaginais pas aujourd'hui avoir tous ces établissements.
Non, je pensais pas avoir une épicerie, par exemple, quoi, tu vois, je pensais pas avoir une saloumeria où t'es spécialisé dans la salaison, enfin, dans les charcuteries, principalement italiennes, où t'as du pinard, t'as de tout à vendre dans les épicerie, quoi, des pâtes fraîches, des charcuteries à couper à la demande, à la fois des clients à servir sur place. C'était un truc auquel j'avais pas pensé, mais voilà, c'est l'association de Faggio et de l'Osteria en face qui ont fait que ça m'a amené à penser à cette saloumeria, quoi.
Qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec tes établissements aux clients?
Aux clients, ben, je te dis, un univers, hein, c'est un bon moment, voilà, que les mecs qui repartent de chez nous, qu'ils soient contents, qu'ils reviennent, et que nous on soit fiers de ça, quoi, simplement. Hein. C'est un échange, hein, y a pas grand chose à ajouter, quoi. C'est juste créer un endroit, créer un lieu de vie qui te fait kiffer, du coup qui pense pourrait faire kiffer les gens, et puis quand ça marche, c'est cool. Donc juste ça, c'est cool, en fait. Quand t'as tes restos au complet et que les gens en redemandent, j'ai la chance de travailler avec plein de gens cool. Juste ça, ça suffit.
Et qu'est-ce qui te rend le plus fier?
Ben, que tout ça fonctionne et que je me dis que mes idées, elles sont pas si bidons que ça. Et que j'ai la chance de travailler avec des gars de confiance et des gars qui sont là depuis longtemps, que ce soit en cuisine ou en salle. Je trouve que, voilà, il y a quand même des gens qui restent, les pièces maîtresses sont là depuis les ouvertures à chaque fois. Donc ça fait du bien aussi parce que tu dis que, ben, que finalement tu fais pas trop mal les choses et qu'ils se sentent bien, dans l'établissement, quoi. On n'a pas trop connu de turnover, de grosses galères où le chef s'en va, du jour au lendemain t'as plus personne. Et j'ai pas envie je touche du bois, j'ai vraiment pas envie que ça m'arrive. Donc ouais, on essaie de faire les choses sincèrement, de faire les choses comme on les aime. Et du coup, on espère que ça plaise, et visiblement ça plaît, donc c'est cool.
Et à quoi il ressemble ton quotidien, ton travail aujourd'hui? Parce que t'es plus du tout comme avant, t'arrivais, tu prenais ton service et tu faisais des cocktails et tu repartais. Là, ça ressemble à quoi?
Ben, tu vois, là, c'est pareil, c'est un truc auquel t'as pas forcément pensé parce que c'est un truc que tu maîtrises pas et que tu connaissais pas. Le management, la gestion du staff, etc. Des fournisseurs, des galères, de tout ce que peut représenter la vie de restaurateur. Il n'y a pas vraiment de planning, c'est des journées qui se ressemblent en fait quasiment pas. Donc des fois c'est très axé administratif, où je t'avouerai que c'est vraiment pas ce qui me plaît le plus, mais je suis amené en faire de plus en plus. Donc j'ai réussi avec de bons conseils à me faire accompagner par une fille qui s'appelle Loteux, qui était chez nous en salle, qui a fait de grandes études, mais qui était là en salle à l'Osteria pendant un moment avec nous. Donc là elle est dans les bureaux, donc je lui ai transmis un peu ce que j'avais appris jusque là. Donc là, on était dans le deuxième mois d'échange, si tu veux, où je expliquais un peu mon quotidien. Donc, c'est pour répondre à ta question, c'est l'administratif, c'est beaucoup de mails à traiter, de fournisseurs, des règlements de factures, le traiter avec les banques, vérifier les commandes, contrôler les bons de livraison, s'assurer que la cam est toujours au rendez-vous, gérer des plannings, gérer des fuites d'eau. Enfin, tu vois, c'est des journées qui sont vraiment quasi indescriptibles. Il y a pas un planning, tu vois. Je me dis pas, tiens, à 9h je fais ci, à 10h je pars là. Tout ce que tu commences, en fait, il y a toujours un truc, soit qui vient interrompre ce que tu es en train de faire, ou alors ça prend beaucoup plus de temps que prévu.
Tu commences tôt et tu finis tard.
Tu commences tôt, tu es obligé de tout finir, donc tu finis, tu sais, des fois 2 jours après. Et c'est une question de priorité, il y a vraiment plein de choses. Puis après, des fois, il faut dépanner en service parce que y en a un qui a pas... Il y en a un qui est malade, il y en a un qui s'est fait mal, il y en a un qui... Voilà, c'est tout un... Donc, tu lâches pas vraiment le service quand même, parce qu'il y a quand même toujours...
Tu n'as plus de rôle opérationnel dans un des restaurants, mais tu dépannes quand il y a besoin, quand il y a des absents ou...
Si, un peu. Bambino, déjà, c'est, non seulement c'est un kiff, donc c'était un plus dans mon planning, et j'allais le soir. Et du coup, j'allais serrer des pinces, j'allais passer des disques, j'allais kiffer un peu, mais en bossant. Mais il y a clairement beaucoup moins de services, parce que de toute façon, tu peux plus les faire. Tu peux plus faire de coupures, c'est pas vrai. Parce que j'étais quand même jusque-là, jusqu'avant que l'auteur soit avec moi dans les bureaux, là, je faisais quand même tout seul. Donc, 6 établissements tout seul avec 30 employés, c'est quand même... ça te laisse peu de temps pour faire les services. Et si t'as un peu de temps, franchement, t'as pas envie, quoi, parce que t'es fatigué, parce que l'administratif, c'est, en France, c'est compliqué. C'est beaucoup de, il y a beaucoup de démarches, de trucs compliqués. Mais bon, on y arrive, hein. C'est juste que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, le soir, t'as pas vraiment forcément envie d'aller te taper 70 couverts avec le rush des services qui à l'époque me faisait kiffer, et là un peu moins, parce que c'est moins un plaisir, parce que t'es fatigué. Donc ça, je passe, je dis bonjour aux clients que je connais, que je reconnais, qui sont contents de me voir parce qu'ils me voient un peu moins. Mais ouais, tu peux pas être partout, quoi. Donc
Et tu te présentes comment aujourd'hui, si t'es amené à croiser quelqu'un qui te connaît pas?
C'est toujours un peu gênant, parce que ça fait tu vois, là récemment on devrait pas trop en parler, mais dans la cour, on a une cour d'immeuble, enfin une cour de, pas d'immeuble, mais de, c'est une espèce de copro où il y a pas mal de gosses, etc., de jeunes pères de famille, de jeunes couples, quoi. Donc on se retrouve forcément tous en bas le soir, avec bien évidemment la distanciation sociale respectée, mais on échange beaucoup. Et là, j'ai fait connaissance avec des gars justement, et qui me demandent: alors tu fais quoi? Et puis c'est toujours un peu gênant de dire au début tu dis t'es restaurateur. Ah oui, mais alors il est où ton resto? Donc là tu dis en fait là j'en ai plusieurs,
j'en ai 6.
Et donc ça fait un peu bouffon de dire j'en ai 6, là j'en ai un dans le 19, un dans le 18, un dans le machin truc. Donc non, donc t'essayes un peu de masquer un peu ce que tu fais vraiment, parce que ça fait un peu prétentieux de dire j'ai 6 restos, ça cartonne, etc. Donc tu dis petit à petit, en fait c'est les mecs qui te posent des questions, quoi. Donc tu dis j'ai Fadjo, pour ceux qui connaissent.
En fonction des questions tu réponds.
Ah d'accord, mais t'as pas un bar? Ah oui, ça c'est le dernier. Ah, parce qu'il y en a d'autres, enfin tu vois, au final, après petit à petit t'arrives à faire comprendre que t'es un restaurateur, que tu gères 30 personnes. Et alors la question qui revient souvent, mais t'es tout seul, mais comment tu fais pour faire tout ça? Ben là je réponds, je sais pas, je suis peut-être un peu fou, peut-être un peu trop d'énergie.
Et tu manages, tu disais que t'avais pas fait d'école de management, mais aujourd'hui c'est quand même une part importante de ton travail avec 30 salariés, tu manages comment?
Ouais, c'est la base, hein. Aujourd'hui, si tu sais pas manager, je pense que tu coules tes boîtes.
T'as appris sur le tas?
Complètement, parce que je savais même à l'époque... Si tu poses des questions à Edouard, et on en a reparlé il y a pas longtemps là, parce qu'il est venu faire des courses, parce qu'il c'était sur le chemin de son lieu de travail, et on en a reparlé. On a fait un peu, forcément on a parlé de l'époque. Donc à l'époque je savais pas quoi. J'étais hyper, t'es un peu le Marseillais qui arrive à Paris, quoi, tu vois, qui sait tout sur tout, qui, c'est la réalité, hein, tu vois, j'ai rien contre Marseille, etc., mais c'est vrai que t'arrives un peu brut, t'es un peu dans un truc un peu. Après, t'apprends, en fait, avec le temps, et Edouard m'a pas mal appris à l'époque. Et à l'époque, non, je savais pas gérer une équipe, c'était même pas...
Vous aviez un employé, non? Vous aviez que Fred, ou...
Ouais, on avait un, mais moi, j'envoyais chier tout le monde. Enfin, même Fred, à l'époque, ça rendait fou Edouard. C'était pas du tout ma qualité première. J'avais d'autres qualités, pour ça qu'on s'est bien complété à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 11 ans de plus, j'ai 35 balais bientôt. Je me considère pas comme un ancien, mais loin de là, mais juste, t'apprends avec le temps, et puis...
Tu t'es arrondi, tes angles se sont arrondis.
tes propres angles, et surtout que t'apprends, parce que t'apprends en faisant des erreurs. En tout cas, pour ma part, c'était comme ça, parce que quand tu parles un peu trop sèchement à un mec qui se barre, et qu'en fait, tu te retrouves le lendemain sans lui, et qu'en fait, tu te dis, j'étais un peu fort, peut-être, et en fait, tu te rends compte que c'est pas comme ça. Donc après, t'apprends à être plus cool, mais tout en gardant une certaine rigueur. C'est venu avec le temps, et j'apprends. Je sais pas si je suis arrivé, je sais pas si je suis un bon manager, mais je pourrais poser la question en off à mon staff. Mais aujourd'hui, je sais que les mecs, ils viennent et kiffent, et je sais que je m'énerve plus, je suis pas, il y a plus grand chose qui me stresse. En tout cas, je le garde plus pour moi. Donc moi, je suis un peu, aujourd'hui, c'est tout en moi, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais la vie est plus facile pour les équipes, et voilà, j'ai que des mecs qui sont là, c'est que des fidèles, et ils sont tous contents, et je pense pas qu'il y en ait qui a envie de partir. Et puis, si ça devait arriver, on se poserait, on en discuterait. Chose que je ne pouvais pas faire à l'époque. J'ai appris avec le temps, il y a la maturité, il y a l'expérience, il y a les erreurs qui t'apprennent plein de choses, quoi. Puis il y a le fait de discuter aussi avec les autres les proches ou même les autres professionnels, tu vois, qui disent, mec, ça, plus jamais, enfin, tu fais pas ça comme ça. Il y a plein de, avec les autres patrons qui bossent aussi, qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés. On échange beaucoup. Il y a des plus jeunes qui m'ont donné de très bons conseils. Et aujourd'hui, il y a des plus vieux qui m'en demandent. Tu vois, je vais pas citer de nom parce que ça, c'est pas l'idée, mais c'est un échange, en fait. Et c'est là où je te rends compte qu'à Paris, ce qui est quand même cool, c'est quand même qu'on défend tous nos propres business. C'est normal, mais on est quand même assez solidaires les uns des autres. Parce qu'au final, c'est une grande famille. On est un cercle assez proche et il y a pas de guéguerre, quoi. C'est plus la solidarité, quoi. Et ça, c'est très très riche. C'est des choses qu'on retrouve peut-être pas en France. Je sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais à Paris, ça c'est cool. Donc c'est tout un tas de choses comme ça qui bout à bout font que bah tu deviens plus fort, tu deviens plus mature, tu deviens plus, t'as plus d'idées, puis tu grandis, quoi. C'est peut-être la définition de prendre de l'âge, quoi, de vieillir, d'avancer.
Tu m'avais dit que t'avais d'autres projets. Pour le futur, on en avait parlé avant le confinement et notamment, tu avais pensé à une occupation diurne de Bambino avec des sandwichs japonais, du slow coffee.
Ben ouais, des idées. Malheureusement pour mon corps, mon petit corps qui n'arrive pas à suivre tout, j'en ai beaucoup trop. J'ai plein d'idées encore à Paris, à l'étranger.
À Marseille.
Ouais, à Marseille, je ne sais pas trop. Non, après, ça, c'est encore un autre univers, mais c'est pourquoi pas, en fait. Juste qu'il faut laisser un peu de temps à Marseille encore, je pense.
Bah, tout est remis un peu en question avec le confinement et le post-confinement, voir comment ça va se passer, mais ouais.
Bah, ça m'a un peu calmé, comme je te disais avant, ça m'a un peu calmé. Parce que j'avais plein d'idées. Et pour rebondir ce que tu me dis, en effet, on doit, parce que je l'ai annoncé, que c'est vraiment, ça fait partie de l'idée de base du projet. Donc l'idée de base du projet, c'est ce Bambino, c'est pas juste un endroit le soir où tu viens kiffer en mangeant, en buvant et en écoutant du son. C'est vraiment inspiré de ces fameux jazz qui s'abarrent du Japon, qui sont des lieux de vie qui ouvrent du matin au soir. En fait, la journée, t'as les petits japs qui viennent. Toujours tout seul, ils font pas la fête, hein, mais c'est toujours tout seul. Boire du café en écoutant des sons, manger des petits trucs, soit des pâtisseries, soit des petits trucs salés, des petits bols de nouilles, etc. Et le soir, ça passe en mode, ça fume les clopes, ça boit des whisky, des misuari, donc c'est des highballs ou des trucs de soir, quoi. Et pareil, ils écoutent la musique, donc c'est une salle, deux ambiances. Et donc là, c'est ce que je voulais faire avec Bambino, qui s'appellera Ristretto. Donc, ça serait le même endroit, mais avec deux ambiances. Ambiance café, jour, toujours la musique. Le seul lien, c'est les enceintes et les platines, quoi. C'est la musique. Et par contre, on viendrait déguster de 9h à 18h, ou de 10 à 18, enfin, de 9 à 17 ou de 10 à 18, je sais pas trop encore, vraiment. D'écouter de la musique, on a la chance d'avoir une super lumière, on est plein sud toute la journée, il y a des grandes baies vitrées, donc il y a une super lumière, donc c'est un endroit très agréable aussi de jour.
Ouais, le lieu il est canon, en plus la déco ressort vraiment de façon différente.
Voilà, il y aurait nos copains de Social Food qui s'occuperaient aussi de l'Instagram et qui créeraient un autre Instagram, en fait, ça s'appellerait Ristretto, avec la même typo de ma filleule, Apollonia, que je salue d'ailleurs, qui a 6 ans et qui m'a fait le logo. Bambino, c'est elle qui a écrit, en fait. Donc, elle a fait déjà le logo pour Ristretto, donc elle a écrit. Donc là, on ferait tout sauf de l'expresso, sauf des Ristretto. On ferait que de l'infusion, que des cafés filtres, des cafés extraits en méthode japonaise, des cafés à la vietnamienne, aéropress, enfin vraiment des infusions également, des choses faciles à boire, des cold brew, enfin tout dans l'univers du coffee shop, en fait, et pour manger du salé le midi, enfin, je pense que ce serait toute la journée, du coup, des sandwich, c'est pain blanc, pain de mie japonais, avec, il y aurait trois variantes, donc il y aurait une tonkatsu, une omelette et une vegan, un peu, bon là, avec les aubergines, des choses comme ça, un peu, enfin, clairement japonaise, des recettes clairement typées jap, et ce, toute la journée. Il y aurait peut-être du feuilletage aussi. Il y a un truc qui m'a inspiré de ouf, c'était Combi à Los Angeles, où il y a tout cet univers-là de sandwich comme ça. Ils sont magnifiques. Il n'y en a pas des masses, mais ils sont excellents. Ils font des pains au chocolat et des croissants exceptionnels. Voilà, peu d'offres comme au Japon. Pas, tu comprends, tu te prends pas la tête avec des formules. C'est plus lire à droite à gauche. C'est très très réduit, mais hyper qualité pour venir un peu voilà la journée, passer un moment. Ou déj au calme, et on enchaînerait le soir sur Bambino.
On arrive à la fin. Est-ce que tu aurais une recette super simple à nous donner, quelque chose qu'on peut cuisiner à la maison? Si on veut cuisiner comme Fabien Lombardi à la maison, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, c'est simple, en fait. Il suffit d'aller toujours dans ce fameux quartier de Sainte-Anne, d'aller acheter de la pâte, faire les gyoza. J'adore faire les gyoza. Je trouve pas ça très compliqué à faire. Juste, bah, t'achètes ça déjà parce que la pâte c'est long à faire, etc. Donc tu vas chez Marc, pas loin de Grillé, là, du kebab. T'achètes les ronds de pâte à gyoza. Et à côté de ça, tu fais ta farce. Donc porc, moi j'aime bien faire porc veau. Porc veau, tu mets un peu de gingembre.
Moitié moitié.
Ouais, moitié moitié, ouais. Porc veau. Qu'est-ce que je mets dedans? De la ciboule, sauce soja, du gingembre, du chou, huile de sésame. Tu fais ta farce, tu mélanges tout bien avec tes gants et bah après tu les fermes, hein, et puis tu fais ça, tu les fais griller parce que je déteste les vapeurs. Donc griller dans une poêle, tu laisses dorer d'un côté. Moi je nappe un peu d'huile de sésame pour accorder un peu les goûts et tu fais griller, tu laisses colorer, après tu mouilles à hauteur, tu couvres et après t'as une espèce de t'as l'amidon qui se dissout dans l'eau et ça devient cool. Là, ils sont bons.
T'as la double cuisson comme ça, un peu grillé vapeur, là. Enfin, pas vapeur, mais grillé.
Et après, tu les manges, tu fais en parallèle, pendant que ça cuit, tu te fais une petite soja jus d'agrumes avec un peu d'huile de piment dedans et puis c'est parti. Hein. J'adore les gyoza.
Bon, bah merci Fabien.
Je t'en prie.
Vous venez d'écouter Fabien Lombardi, dernier épisode de la saison 3. Pour goûter à ces lieux pleins de feeling, rendez-vous chez Faggio, Faggio Osteria ou Faggio Salumeria en haut de la rue Rochechouart à Paris 9e, Faggio Passage des Panoramas ou au Grand Contrôle, ou encore chez Bambino, mon chouchou, donc rue Saint-Sébastien dans le 11e. Pendant l'été, je vais rediffuser des anciens épisodes du podcast, vous pouvez aussi les retrouver et les écouter sur votre plateforme préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com. N'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Julie Tépé, musique par Santiago Walsh. Rendez-vous début septembre pour une nouvelle saison d'Apoil.